Il est 7 heures en Avallon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous avons ce soir une rencontre, un moment d'échange. Je vais donc tout de suite passer la parole à Isabelle, qui est gardienne de la parole et coordonne, reçoit les questions qui nous sont arrivées, s'il vous plaît.
Bonsoir. Une première question de Bruno de Lyon, qui est ici, en Avallon.
Merci.
Bruno, bonsoir. Bruno
Potier, s'il vous plaît. Ces derniers soirs, vous nous avez parlé, nous vous avons questionné au sujet des femmes, de la féminité et des hommes, des qualités aussi de la masculinité, de la féminité. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous parler des aspects masculins et féminins chez un même individu et comment le dharma nous ouvre à la connaissance de ces aspects ou à leur expression, s'il vous plaît.
Donc, oui, il y a déjà une chose importante, c'est que nous avons tous deux pôles, masculin, féminin, féminin, masculin, que nous soyons hommes ou femmes. Et quand le pôle sexué correspond à notre sexe, nous sommes hétéros, et quand le pôle qui domine n'est pas celui de notre sexe, nous avons tendance à être homo. Donc, l'important, c'est peut-être déjà de reconnaître cette polarité et qu'il y a beaucoup de niveaux. Et il y a dans cette polarité une dimension physique, psychologique, spirituelle, et aussi au niveau des qualités. Bon, il est clair qu'il est... Alors, je vais être un petit peu provocateur pour animer le débat. Il est clair que les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. C'est évident. Il y en a qui ont un zizi et il y en a d'autres qui n'ont pas de zizi. Et hier, Gérard nous parlait de l'angoisse de castration. De la peur de le perdre et des problèmes ou des ambitions pour l'acquérir. En tout cas, et puis il me faisait remarquer aussi, c'est évident que les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes et qu'il y a une supériorité masculine. Exemple, les records du monde de sport. Eh bien, il n'y a pas un domaine où les femmes elles égalent les hommes. Personne, rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Donc, de ce point de vue, il est sûr et il est démontré scientifiquement que les hommes sont supérieurs aux femmes. Ben oui. Physiquement, que d'une façon générale, un homme est plus fort qu'une femme. C'est vrai qu'il y a des... Pas toujours. Pas toujours. Et il y a des femmes qui font des arts martiaux. Alors... Est-ce qu'il y a un corollaire, un domaine où les femmes battent les hommes à plate couture? Oui, je pense. Alors, Pardon ? À fond des enfants, ça c'est sûr. Mais oui, il faut quand même être deux. Après, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est assurément une supériorité et, physique, d'ailleurs, physique. On me fait remarquer que pour parler, il faudrait que vous preniez le petit bâton de parole, là. Alors, donc, il y a des spécificités masculines et féminines, féminines et masculines, au niveau physique. Il y a aussi certainement des spécificités psychologiques, et bien sûr. Alors, je me souviens par exemple qu'Alain Bechet disait « Les hommes c'est l'orgueil, les femmes c'est la jalousie ». Vrai ou faux ? Il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai. Les mecs, c'est l'orgueil. Les nains, c'est toute jalousie. Bon, alors, ce serait bien sûr caricatural de réduire les différences à cela, mais il y a des tendances clairement psychologiques, spécifiques. Et... il y a aussi des tendances spirituelles, et c'est peut-être là le plus important. Dans la vision tantrique, tout est sexué. Alors, tout est envisagé sur un mode polaire, plus, moins, masculin, féminin, c'est-à-dire sexué. Et l'éveil, la voie de non-dualité, qui est la voie du dharma, qui conduit à l'éveil, l'expérience, l'état de non-dualité, est symboliquement exprimé par... l'union masculin-féminin, comme Chakrashamvara et Vajravahari, qui sont sur l'autel derrière moi. Dans la pratique spirituelle, nos deux pôles, masculin féminin, sont indispensables. Il y a deux pratiques diaboliques, upaya sans prajna et prajna sans upaya, c'est-à-dire masculin sans féminin, féminin sans masculin. Diabolique au sens simplement de dualiste, hein. Et c'est dans l'union, dans la réunion, dans la communion, dans le yoga, union, unificateur du masculin et du féminin, d'upaya et de prajna en sanskrit, c'est-à-dire de karuna et de shunyata. Karuna, karima, karita, karité, charité. C'est la bonté, la compassion, carita, karuna. C'est la bonté, la compassion, l'amour, l'empathie. L'empathie d'amour, compassion. Et l'autre, là, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, prajna, est l'intelligence. Mais... l'intelligence, non pas au sens du mental, mais l'intelligence naturelle, l'intelligence profonde, l'intelligence directe, immédiate, spontanée. Cette intelligence préconceptuelle, aconceptuelle, C'est le deuxième pôle. Alors, lequel est masculin, lequel est féminin? Lequel est féminin, lequel est masculin? Ah. L'intelligence est féminine. La bonté est masculine. Hein. L'intelligence est féminine, la bonté est masculine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'intelligence dont il s'agit n'est pas une intelligence mentale, c'est une intelligence naturelle. Et l'intelligence naturelle, l'intelligence de la nature, l'expérience naturelle est féminine. Et on en parlait précédemment, c'est d'ailleurs pourquoi la nature comme les femmes ont été, dans certaines circonstances, diabolisées. Hop, dans le même sac. Les femmes et la nature, et le sexe, le diable. Donc, l'intelligence, cette intelligence naturelle est féminine. Et la bonté qui est l'amour, compassion, et qui gouverne l'action, est masculine. L'intelligence est passive et féminine. La bonté, amour, compassion est active et en ce sens masculin. Donc le masculin est actif, le féminin est passif. Mais passif au sens d'englobant, de l'intelligence qui englobe et qui comprend, hein, au double sens que de comprendre, qui d'inclure et de percevoir. Donc, l'intelligence comprend. Il y a le domaine de l'intelligence. La grande mère, la Prajnaparamita, la mère de tous les Bouddhas, et cette compréhension ouverte, cette compréhension absolue, compréhension non-dualiste et absolue, féminine. On le dit aussi le domaine de la vacuité. Et dans ce domaine de la vacuité vit l'énergie de clarté, l'énergie de bonté, l'énergie de l'empathie qui est active, qui agit et qui est masculine. Mais les deux, et vous pouvez le sentir de ce que je dis, s'interpénètrent, sont imbriqués. Et dans le cheminement, l'on est amené à développer ces deux pôles, féminin, masculin, masculin, féminin, intelligence, bonté, bonté, intelligence. Et l'intelligence qui est aussi ouverture, et la bonté qui est aussi énergie. Et c'est de leur rencontre et de leur union que naît l'éveil. Donc, c'est de l'union du masculin et du féminin et du masculin en soi que naît l'éveil. pour un premier tour. Gérard, vous auriez quelque chose en tant que psychologue émérite à rajouter sur la complémentarité du féminin et du... Parce que d'un point de vue psychanalytique et pas que, il y a beaucoup de choses à dire.
Certainement. Mais ce que je voudrais dire, c'est... ce que vous dites, c'est, ça s'est vérifié de façon quasi expérimentale par une Américaine, une fille extrêmement brillante, intelligente, qui était à 32 ans prof de neuroanatomie à la Harvard School et qui était vice-présidente de l'Association nationale des parents d'enfants handicapés. Elle avait un frère schizophrène. Donc cette femme très brillante, très active et tout, qui circulait, tout...
Mettez votre petite cravate un tout petit peu plus haut, vous entendra mieux, s'il vous plaît. Voilà,
qui
merci.
Connaissait bien... Oui, ça marche, non ? Ouais. Qui connaissait bien son anatomie, alors qu'elle travaillait au bureau, chez elle, dans son université, elle a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, donc elle s'est rendue compte qu'elle était en train de faire un AVC et qu'elle ne pouvait plus bouger les bras, qu'elle ne pouvait plus composer pour composer le numéro au fur et à mesure qu'elle composait un numéro, elle oubliait le numéro qu'elle composait. Enfin, ça a duré 5-6 heures. Et elle a fait un AVC qui était sérieux, donc du côté droit.
Gauche.
Non, du côté droit. Du côté droit. Et justement, elle a fait du côté droit, ce qui fait qu'elle a été hospitalisée, on s'est occupé d'elle et ainsi de suite. C'était quand même un ponte. Et à ce moment-là, ce qu'elle a vécu, c'est une libération complète du cerveau gauche. Le cerveau gauche, qu'on dit qu'est le cerveau féminin, qui est un cerveau intuitif, qui est un cerveau non pas analytique, mais synthétique, qui voit les choses globalement. Et finalement, elle était très heureuse. Elle raconte qu'après tout, il a fallu ensuite qu'elle réapprenne, par exemple... À lire, à écrire et à parler. Et elle s'est dit, pourquoi est-ce que je vais apprendre, m'emmerder à apprendre à lire et à écrire, ça va demander beaucoup d'efforts, alors que je suis si bien dans cet état, finalement, de pleine conscience.
Elle l'a appelé La La Land.
Ouais. Et à ce moment-là, elle s'est dit, oui, mais il faut que je puisse partager cette expérience avec les autres. Et pour pouvoir partager cette expérience, elle a décidé de réapprendre à lire, à écrire et à parler. Donc, c'est totalement, en effet, ce qu'on vit un peu dans les pratiques, où il faut, d'un côté, on ne peut pas dire que la pratique analytique, le cerveau masculin, c'est quelque chose qu'il faut rejeter, parce qu'il y a toute une compréhension dans le système Madhyamaka, par exemple, qui est nécessaire de comprendre. Mais d'un autre côté, il n'y a pas que ça. Il faut que ça aille en alliance avec cette intelligence, qui est une intelligence intuitive, qui est une intelligence non pas analytique, mais synthétique, générale.
Tout à fait. Il y a un hémisphère logique et il y a un hémisphère analogique.
Voilà, exactement. Donc il faut pouvoir casser un peu l'hémisphère logique et ce n'est pas si facile que ça.
Mais est-ce qu'on ne s'emmêle pas dans les hémisphères, là ?
Si, je me suis emmêlé dans les hémisphères.
Il me semble bien.
Oui.
Donc effectivement, un AVC du côté gauche.
Voilà.
Elle avait eu un AVC du côté gauche. Et c'est très très intéressant. Évidemment, j'ai vu la vidéo,
la conférence. Ouais.
Donc, elle avait l'hémisphère gauche qui était neutralisé et elle était dans le cerveau droit empathique et analogique et non conceptuel. Et elle a mis effectivement un temps énorme pour réussir à faire le numéro de téléphone de son assistant pour lui dire et qu'il se rende compte qu'il y avait un problème. Et alors, le cerveau droit, effectivement, alors, intéressant, le cerveau droit correspond à la narine gauche.
Oui, mais non. Au corps, il y a la décussation des pyramides qui se fait au niveau du tronc cérébral.
Oui.
Donc au niveau de la narine, je pense que c'est le même côté. Parce que la décussation, elle a lieu au niveau du tronc cérébral. Oui. Donc tout ce qui est l'hémisphère, si vous voulez, oui, j'en suis sûr maintenant, tout ce qui est l'hémisphère, par exemple, un AVC gauche, vous êtes paralysé du côté droit.
Oui.
Vous Paris et du
Côté-Noir. Donc il y a une interversion simplement.
Il y a une interversion et par contre, vous êtes dévié au niveau du visage à gauche.
Du côté de l'AVC.
Voilà, du côté de l'AVC, oui. Parce que les fibres croisent la décussation des pyramides au niveau du tronc cérébral. Donc c'est tout le reste du corps.
En tout cas, on a aussi une alternance narinaire. Oui. Et dans les narines, il y a le souffle droit, le souffle gauche. Et le souffle gauche et le souffle de jnana en sanskrit, c'est-à-dire le souffle non conceptuel, le souffle d'expérience immédiate et d'empathie. Et le souffle droit, la narine droite, et celle de... des conceptions et de leur fabrication. Dans la pratique yogique, on amène même un équilibre des deux souffles. C'est un des aspects de l'harmonisation du masculin et du féminin en soi. Bon, eh bien écoutez, voilà. Isabelle, on écoute aussi les autres questions qui étaient arrivées. Alors si peut-être encore un petit complément sur notre histoire, là, parce qu'on est parti des discussions qui étaient quand même un petit peu spéciales sur le scandale en Espagne. Du point de vue du Bouddha, et dans l'intelligence de ce que je viens de dire, que l'on soit femme ou homme, homme ou femme, nous avons exactement la même nature de Bouddha. Nous avons la même polarité avec une dominante qui peut changer et qui dominante qui est avec une dominante masculine ou féminine et nous avons le même cheminement dans la réalisation de ces deux pôles et dans leur union, dans leur harmonisation qui conduit à l'éveil. Donc, c'est une façon de dire que nous avons, homme ou femme, exactement les mêmes potentialités, les mêmes possibilités d'éveil, et que de ce point de vue, nous sommes complètement égaux. Ce qui fait qu'il y en a qui sont un petit peu plus égaux que les autres, c'est leur égo. Hein? C'est une autre histoire. Voilà, je vous repasse la parole, Isabelle, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a des questions par...
Bon, eh bien, c'est bien. Alors, il y avait la question d'Isabelle de l'autre jour, qui est restée en suspens. Ben justement, Isabelle, donnez-lui un bâton de parole, s'il vous plaît. Le voilà qui arrive.
J'avais une question concernant... comment concilier détachement et engagement ?
Ça, c'est une très bonne question. Détachement et engagement. Et puis, il y avait votre autre question, je ne l'ai pas oublié, qui était sexe et séduction. Vous avez oublié ça ?
Oui, non. Je pensais que vous y aviez
c'est
répondu.
Isabelle qui l'a oublié. Alors, détachement et engagement.
Est-ce que je peux peut-être expliciter ce que j'avais à l'esprit?
S'il vous plaît.
En fait, je participe aux datunes et je m'entraîne, comme nous tous, à m'éveiller à la nature non solide des pensées, la nature transitoire des pensées. Donc, c'est un petit peu ce que j'appelle le détachement. C'est peut-être pas le juste mot, mais dans cette démarche-là, je m'interroge sur ma capacité à conserver ma...
On vous amène un bâton de parole de rechange.
Merci. Donc, on s'entraîne à s'éveiller au caractère illusoire des phénomènes et des pensées. Mais en même temps, les pensées, elles sont illusoires, mais elles conditionnent et elles motivent nos comportements qui s'incarnent dans la réalité concrète. Donc, je ne veux pas revenir sur l'exemple d'hier, mais concrètement, quand des pensées... des pensées peuvent s'incarner dans des comportements qui sont parfois violents et destructeurs et qui nécessitent une attitude d'engagement. Et j'avoue que personnellement, quand je suis face à des pensées qui sont potentiellement destructrices, ma tendance naturelle, c'est de réagir avec beaucoup de colère, beaucoup d'indignation et d'une manière très passionnelle. Donc je me sens dans l'autre extrême. Extrêmement difficile pour moi de me connecter à cette idée que la pensée est illusoire et qu'elle est non solide. Donc j'ai une difficulté en fait à concilier les deux et à comprendre comment vivre avec les deux. La capacité de s'engager d'une manière responsable et constructive quand il s'agit de s'indigner face à des choses qui ne sont pas acceptables et en même temps pouvoir rester en permanence éveillé à cette notion que la pensée est illusoire.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Déjà, une première remarque. On ne se frappe pas pour des pensées. Si quelqu'un blablabla, vous pouvez laisser blablabla. Ne pas être illusionné par... ne pas être prisonnier, possédé par le pouvoir des concepts. Les concepts sont relatifs. Dieu, diable, bon, mauvais, chaud, froid, haut, bas, ciel, terre, et pas seulement des doublets, tout concept est complètement relatif et foncièrement illusoire. Ce sont des caractéristiques culturelles. Les concepts sont complètement culturels, déjà dans les langues, mais aussi dans les matrices sociolinguistiques. Et dans l'expérience, mais dans les concepts, c'est pour ça que des pratiquants du Dharma ne vont pas se quereller pour des concepts. Alors, dans les concepts, on peut avoir raison ou on peut avoir tort. Au niveau relatif, la logique est le moyen de connaissance valide. Mais avec ce moyen de connaissance valide, la logique... on peut avoir raison, mais si on a raison, finalement, on n'a jamais et toujours que raison. C'est déjà pas mal, mais ça reste relatif. Et ce qui est important, finalement, c'est l'attitude et le comportement. Et il y a des comportements qui sont violents, et ce sont ces comportements qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bons, qui ne sont pas harmonieux, qui ne sont pas sains. C'est la violence qui est malsaine. Alors, vous me direz, il peut y avoir des mots violents, oui. Mais ce qui est finalement juste, ce pour lequel il est bon de s'indigner, ce qui mérite que l'on s'indigne, c'est la violence. Mais la violence qui prend énormément de formes. Et la violence a tendance à venir des concepts. On parlait pas plus tard qu'hier de ce qu'il y avait de malsain dans la diabolisation d'arguments d'autorité religieux. Les anathèmes, oukases, fatwas de tout poil. Donc, la violence, la nature du dharma est non-violente, parce que la nature du dharma est non-conceptuelle. Et parce que les concepts contiennent en eux-mêmes une violence. D'abord subtile, mais qui devient grossière, ou qui peut le devenir. Les concepts sont dans la conception en laquelle naît la dualité. Concept, conception et dualité fonctionnent intrinsèquement ensemble. Et la dualité, c'est le duel. Et le duel, c'est le conflictuel. Donc, c'est la conception amène du duel conflictuel. C'est QFD. L'intelligence naturelle, non conceptuelle, qui est féminine, amène au lieu de jugements mentaux, au lieu des jugements mentaux et duels, amène de l'empathie simplement, de l'empathie naturelle, de l'empathie aconceptuelle si on veut, parce que l'empathie n'est pas conceptuelle. Et somme toute, de la non-violence. Les femmes sont moins violentes que les hommes, d'une façon générale. ou pas de la même violence. Et puis c'est culturel, là aussi. Il y a une éthique, il est une éthique naturelle. Une éthique naturelle qui est une éthique, l'éthique d'empathie, c'est-à-dire l'éthique de non-violence, l'éthique de bonté empathique. Ne fais pas à l'autre la violence que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Respecte ton prochain comme toi-même, considère l'autre comme un autre toi-même, et c'est sûr que nous avons tous la même aspiration au bien-être. Et hier, je disais, mais au fou, tu crois que je suis autre que toi. Qui est-ce qui a dit ça? J'ai oublié. Bon, peu importe. En tout cas, ce soir, c'est moi. Et l'échange de soi et d'autrui et la capacité d'être à la place de l'autre et de considérer l'autre comme soi et d'avoir ce même respect ou de rencontrer l'autre dans l'empathie, tout simplement. Donc, c'est là que se trouve le fond éthique, naturel, universel, qui est l'empathie de non-violence. Comment s'appelle là, le célèbre chinois qui a écrit un traité là-dessus, c'est utile. Celui que cite Francesco Varela.
Mangzi.
Voilà, Mangzi, un célèbre chinois que Francesco Varela, qui est un des plus grands dans les neurosciences, neuroscientifiques contemporains, il est décédé il y a quelques années. C'est lui qui a commencé avec le Dalai Lama, le Mind and Life Institute, à Boston, avec le MIT, justement. Francesco, qui était un ami personnel, a écrit un livre qui se nomme « Quel savoir pour l'éthique ?». Alors, c'était un pratiquant du Dharma, et donc, quel savoir, quelle cognition pour l'éthique. Et justement, dans ce livre magistral, ils mettent en évidence la réalité d'une éthique naturelle. D'une éthique naturelle qui est une éthique de pleine présence empathique, qui consiste à être... l'éthique se trouve dans l'empathie de la pleine présence. Et alors, l'exemple célèbre de Mangzi, de Mangzi cité par Francesco Varela, est celui d'un homme qui, avec un petit enfant, va au puits puiser de l'eau. Et le petit enfant, il l'assied bien sur la margelle du puits, et il descend le seau, un puits bien sûr à l'ancienne, et le petit enfant fasciné par le seau qui descend et les reflets au fond du puits, se penche, et à un moment bascule. Et hop, il a le réflexe de le rattraper, et le repose sur la margelle du puits. Attention, petit gars. Cet homme a sauvé la vie de l'enfant et il a, en ce sens, fait un geste éminemment bon, éminemment éthique, sauver la vie. Mais il l'a fait... d'une façon, on peut dire, naturelle, où il l'a fait tout simplement parce qu'il était présent et dans une situation d'empathie. Et il ne s'est pas dit « Ouh, le petit enfant est en train de basculer » et je pense qu'il serait bon et éthique, qu'il serait responsable de ma part en tant qu'adulte de faire quelque chose pour rattraper ce petit enfant avant qu'il ne s'écrase au fond du puits. Donc, il faudrait que je fasse quelque chose éthique. Hein, c'est le moment. Voilà. S'il était parti dans ce genre d'élucubration, le petit enfant, il serait mort, il serait tombé au fond.
Obtenir une promotion sociale ou dans son entourage, il ne l'a pas fait pour
avec une intention autre que de faire un geste bon, naturellement bon. Il n'y avait pas d'arrière-pensée.
Il n'y avait pas d'intention. Dans la... Et on a une faculté d'action préconceptuelle. Alors ça, c'est très important. On s'en rend compte des fois si on est un petit... On laisse tomber quelque chose, on le rattrape. Enfin, ça dépend si on est bon, mais on peut... avant même, la pensée n'intervient pas. On dit que c'est un réflexe. Hein? Et nous avons une capacité de fonctionnement réflexe préconceptuel qui est plus rapide que la pensée. Et il y a, en tout cas, dans une attitude de présence empathique, en même temps, un état profondément éthique, profondément bon, bon et éthique, qui est même le fond de l'éthique naturelle.
Oui. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'agapé dans ce cas de figure ?
L'agapé, tu entendais, prenez un petit bâton de parole pour que tout le monde vous entende. Expliquez-nous l'agapé, parce qu'il y a c'est beaucoup de choses dans l'agapé. Hein. Oui, avec la petite barbichette. Il faut carrément le mettre en barbichette.
Donc, je demandais si on pouvait faire un lien avec tout ce que vous venez de dire sur le sens de l'agapé. L'agapé qui est l'amour inconditionnel, l'amour sans attendre de retour.
Si on entend l'agapé comme l'amour inconditionnel sans attendre de retour... c'est l'amour d'un Bouddha. Alors, sans intention, complètement non intentionnel, complètement spontané. L'image même que l'on utilise est celle du soleil qui rayonne naturellement, spontanément, tout comme le soleil rayonne lumière et chaleur, et dans celle-ci fait germer les graines, croître les herbes, pousser et fleurir. Les fleurs fleurissent, les fruits fructifient, tout ça grâce au soleil, mais sans que le soleil et eu d'intention de faire pousser les fleurs, etc., etc. Donc, c'est une image de l'activité éveillée dans sa spontanéité, dans sa non-intentionnalité, et de l'amour, de la bonté éveillée qui œuvre ainsi naturellement et spontanément. Orlien, s'il vous plaît.
Rinpoche, ce soir, une centaine de personnes avec nous. Deux questions online. Jean-Louis de Chambéry, qui est à propos avec les vœux de Bodhisattva que vous avez transmis cet après-midi. Bonsoir, Rinpoche. Chaque pratiquant sur la voie est censé avoir une attitude de non-attachement et même de rejet du samsara. Comment concilier ce paradoxe sachant que le Bodhisattva s'engage à aider les êtres qui se trouvent justement dans le samsara?
Tout à l'heure, j'aurais aussi, avec la question d'Isabelle, dû développer... il y avait dans sa question engagement et détachement. Et il y a une différence très, très importante à faire entre détachement et non-attachement. Entre non-attachement et détachement. Alors, expliquons-nous. Le détachement est l'un des trois poisons de l'esprit. Il y a, les trois poisons de l'esprit sont attraction, répulsion et indifférence. Détachement égale indifférence. Ça m'est égal, je m'en lave les mains, c'est pas mon problème, je m'en super tamponne. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Ça m'est indifférent. Je m'en fous. Voilà. Laissez-moi. Et c'est, je ne veux pas entendre, je ne veux pas. Fermé. Donc, ça, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence qui est une forme d'ignorance, une forme d'opacité, de fermeture. Et c'est l'un des trois poisons mentaux, attraction, répulsion, indifférence. Et alors, il est important de le dire fort, que l'indifférence est un poison, et un poison dangereux, et un poison pernicieux. La répulsion, la colère, la haine, c'est assez clair et évident comme poison. L'attraction, la possessivité, l'avidité est aussi assez évident. L'indifférence est beaucoup plus subtile. Et on trouve dans des milieux bouddhistes des personnes qui cultivent l'indifférence comme une vertu, entre guillemets, sans savoir que c'est un poison. Il y a des fois, comme ça, oh, moi je suis tranquille, zen, vous savez, zen, cool, tranquille. La zénitude, la zen attitude. Bon, il y a des bons côtés aussi, mais il y a souvent de l'indifférence. Il y a beaucoup d'indifférence. Le monde meurt de notre indifférence. Je disais l'autre jour que nous sommes des faux démocrates. Dans des démocrates clanistes. En Europe, oui. En France, oui. Ailleurs. Donc, bref. L'indifférence, gros poison. Attention. Alors maintenant, le non-attachement est. Au début, entre indifférence et non-attachement, la différence n'est pas forcément évidente. Qu'est-ce que le non-attachement ? C'est ne pas être attaché. Jusque-là, ne pas être attaché, c'est ne pas être lié, c'est ne pas être ligoté. Et qu'est-ce qui nous attache, qu'est-ce qui nous ligote ? C'est la possession, ou mieux la possessivité. C'est en possédant que l'on est possédé. Hein? Donc, et plus l'on est dans la possession, plus l'on est possédé. Donc, de ce point de vue, le non-attachement est une... qui est de ne pas être ligoté, ficelé et pris dans ses fixations, est une forme de liberté. Le non-attachement est une liberté. Et c'est même la liberté. C'est même la vraie liberté. Et alors, point très important, qui n'est pas évident, c'est que le non-attachement est l'état de plus grande sensibilité qui soit. Premier exemple, pour les ingénieurs. Dans un appareil de mesure électrique, appareil de ampèremètre, voltmètre, un appareil de mesure, et à une sensibilité qui est inversement proportionnelle à sa résistance interne. Vrai ou faux? Oui. En tout cas, en électricité. Mais la résistance interne, c'est l'attachement, ici. Moins il y a de résistance interne, moins il y a d'attachement, et attachement et résistance, fixation, saisie sont des synonymes, ici. Attachement égale saisie, ou fixation. Et l'état de non-attachement, l'état de non-saisie, l'état de non-fixation et l'état de pleine présence. L'état de pleine présence. De présence totale. Et dans cette présence totale, d'empathie totale. Et d'empathie qui est une forme de communion. Et de communion ou simplement d'absence de séparation. On est un avec l'autre. On est ensemble. Et il y a dans cette empathie de communion l'état de plus grande sensibilité, de plus grande réceptivité et disponibilité qui soit, de plus grande sensitivité ou sensibilité qui soit. Donc, l'état de non-attachement est l'état de bonté parfaite, d'amour et de compassion parfaite, ou éveillé, ou même d'agapé, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, ce qui corrompt l'amour, la bonté, la compassion, c'est l'attachement. Alors, quelle était la formulation de la question? C'était...
Chaque pratiquant sur la voie est censé avoir une attitude de non-attachement et même de rejet du samsara. Comment concilier ce paradoxe, sachant que le bodhisattva s'engage à aider les êtres qui se trouvent justement dans le samsara?
On y a d'une certaine façon répondu. Le non-attachement et le vrai non-attachement et l'état de non-saisie, de présence ouverte, de pleine présence, qui est un état de réceptivité, de sensibilité. C'est cet état que l'on cultive et auquel on s'entraîne dans la pratique de l'entraînement spirituel, dans la pratique de l'ojong, et dans la pratique de tonglen particulièrement. Accueillir, offrir avec le souffle, recevoir, donner. Et on cultive cette empathie. Et quand on est en état d'empathie véritable, aider les autres ou s'aider soi, c'est pareil. Et il y a à ce moment-là une action pour le bien, pour le double bien. C'est une stratégie win-win. Pour le bien des autres et pour son bien propre. Pour son bien propre et pour le bien des autres. Comme dit certaines fois le Dalai Lama, Soyez égoïste si vous le voulez, mais soyez-le intelligemment en étant altruiste, s'il vous plaît. Donc, de l'égoïsme intelligent, c'est de l'altruisme. Dans l'intelligence de notre interdépendance et finalement de notre non-dualité. Je propose qu'à ce point, nous concluions par un tout petit moment de contemplation et une dédicace.